Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC, je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Lille, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme la montagne Sainte-Victoire dans l'arrière-pays provençal. Que d'efforts pour grimper jusqu'en haut, mais quelle belle récompense à la fin. Bonjour Laurine.
Bonjour Étienne.
Alors Laurine, nous sommes tous les deux enseignants au lycée et nous sommes au cœur de la phase de la mise en place délicate de la réforme du lycée et du bac.
Et ça provoque beaucoup de remous dans les établissements scolaires car c'est l'occasion, entre autres pour le ministère de l'Éducation nationale, de supprimer des postes d'enseignants.
Beaucoup de ministères sont touchés par ces suppressions d'emplois prévues dans le budget 2019 de l'État, sauf le ministère des Armées, celui de l'Intérieur et celui de la Justice. Alors c'est une bonne nouvelle pour ces trois ministères, surtout pour celui de la justice qui voit ses fonds alloués par l'État augmenter de 4,5% en 2019. Et en regardant un peu plus près, on se rend compte que les nouveaux crédits seront surtout affectés à l'administration pénitentiaire.
Car la situation dans les établissements pénitentiaires est très tendue. Avec un chiffre qui pose problème, une surpopulation carcérale d'environ 118%. C'est-à-dire que le nombre de détenus est supérieur de 18% au nombre de places prévues dans les prisons.
Au 31 décembre 2018, on comptait en France 71 000 détenus pour seulement 60 000 places, selon l'Observatoire international des prisons. Et cette surpopulation se concentre essentiellement dans les maisons d'arrêt, avec une surpopulation carcérale de 140%.
Alors pour précision, les maisons d'arrêt sont les établissements pénitentiaires pour premièrement les personnes prévenues en détention provisoire, c'est-à-dire celles et ceux qui sont en attente de jugement, et deuxièmement pour toutes les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement inférieures à 2 ans. En gros, on entasse les présumés innocents et les petits délinquants.
Ouais, voilà votre cellule.
Des lits superposés !
Oh, je prends l'eau !
Et cette surpopulation carcérale est un grave problème à plus d'un titre. C'est une violation des droits des détenus selon la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est une source de tensions et de violences entre détenus et aussi entre détenus et agents de surveillance. Il suffit d'écouter l'excellent podcast américain Ear Hustle pour s'en rendre compte. Ce podcast est co-animé par des détenus qui racontent leur quotidien dans le centre pénitentiaire de San Quentin en Californie.
I'm Earlonne Woods, a prisoner at San Quentin State Prison in California.
I'm Nigel Poor, a visual artist, and I volunteer at San Quentin.
And together, we're going to take you inside.
Il faut donc agir, et la solution la plus simple qui vient à l'esprit, c'est qu'il faut construire de nouvelles prisons.
Oui, mais est-ce que c'est une si bonne idée, notamment d'un point de vue économique? Eh bien, ce n'est pas si sûr.
Faut-il construire des prisons?
Il faut construire des cellules.
Voilà ce que Jean-Jacques Urvoas ne veut plus voir, une cellule partagée par plusieurs détenus.
La construction de 15 000 places supplémentaires de prison est un engagement fort du président de la République. Il sera tenu.
En France, on compte 68 000 prisonniers pour seulement 58 000 places.
Parce que ne pas pouvoir incarcérer ceux qui doivent l'être est inadmissible.
Évidemment, de nombreux gouvernements se sont attelés à la tâche. Car la surpopulation des prisons est un mal chronique en France depuis les années 1980. Et c'est ainsi que sont apparus le plan Chalandon en 1988 pour construire 13 000 places, le programme dit de 13 200 places concocté en 2002, le dispositif d'accroissement de 3000 places en 2004, la loi de programmation de 2012 avec 6500 places en plus, et enfin, dernier en date, la loi de programmation de 2018 qui prévoit la création de 15 000 places d'ici 2027. Et les gouvernements successifs ont décidé de recourir de plus en plus au privé pour être, selon eux, plus efficaces dans la construction et la gestion de ces nouveaux établissements pénitentiaires. Et c'est le plan Chalandon de 1988 qui initie ce grand tournant avec un recours désormais systématique à ce qu'on appelle la délégation de service. Pour nous expliquer ce que c'est, Laurine, tu as mené une interview à Lille avec un sociologue spécialiste de la question.
Oui, avec Grégory Sall, chargé de recherche au CNRS, installé à Lille. Alors on a fait l'interview dans un café, ce qui peut expliquer quelques bruits de fond. Il nous explique le tournant du plan de 1988.
On est au moment de la première cohabitation en 86-87, et à la suite d'une bataille politique un peu oubliée, mais pourtant assez intense, le ministre de la Justice de l'époque, Albin Chalandon, réussit à faire passer un programme, ensuite validé par le gouvernement socialiste qui suivra en 88, qui finit par s'appeler le programme 13 000 places, au début il y en avait plus, mais 13 000 nouvelles places de prison, qui met en place une gestion qu'on appelle déléguée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ou mixte parfois, ça veut dire qu'on transfère un certain nombre de compétences de gestion carcérale ordinaire au secteur privé. Gestion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gérer la nourriture, le nettoyage, la blanchisserie, la maintenance, la cantine pénitentiaire, donc là où les détenus font leur achat en plus, etc.
L'idée est simple pour le gouvernement. L'administration et la bureaucratie seraient incompétents ou inefficaces pour gérer correctement des services que des entreprises privées peuvent prendre en charge. Évidemment, tout n'est pas délégué au privé, car l'État continue d'exercer ce qu'on appelle le noyau dur des établissements pénitentiaires, à savoir la surveillance, la direction, le greffe et aussi la santé. Même si on a essayé de déléguer la santé pendant quelques temps, mais c'est revenu dans le giron de l'État.
Mais pour tout le reste, l'idée est de faire des économies, en faisant des appels d'offres sur ces délégations, pour mettre en compétition les entreprises.
Compétition qui devrait faire baisser les prix. Et c'est pour ça que Grégory Sall parle de marchandisation d'une partie des activités des établissements pénitentiaires, même si tout n'est pas privatisé. Aujourd'hui, on aurait environ 75 établissements en délégation de services sur 185 établissements pénitentiaires en tout en France.
Bon, mais alors, est-ce que ça marche ?
On a quelques indices qui pourraient nous faire penser que ce n'est pas une si bonne affaire pour l'État. J'ai interviewé Marie Crétenot dans les locaux de Nouvelles Écoutes. Elle est juriste et travaille pour l'Observatoire international des prisons. Et elle nous donne un exemple de mauvaise affaire de délégation de services.
Par exemple, sur le développement de la formation professionnelle, ils avaient des fonds qui étaient fournis par l'État et des fonds européens aussi en partie. Et on se rendait compte qu'une heure de formation professionnelle en gestion déléguée coûtait bien plus cher qu'une heure de formation en gestion publique. Et ce qu'ils facturaient à l'État était plus important, et ils ont des objectifs à tenir en heures de formation à dispenser, pas tellement en termes de qualité, mais en heures simplement quantitatives. Et ils provisionnaient en fait dans leur quand ils soumettaient des appels d'offres le paiement des pénalités éventuelles. Donc finalement, même quand ils remplissaient pas les objectifs, ils avaient déjà provisionné en fait le paiement.
Petite explication. Si les entreprises ne respectent pas les termes du contrat signé avec l'État, par exemple pour fournir un certain nombre d'heures de formation, alors l'État peut les sanctionner. Sauf que dans certains cas, comme l'explique Marie Crétenot, il semblerait que les sanctions soient déjà prévues dans les comptes des entreprises qui réalisent des profits malgré tout. Tout ça veut dire tout simplement que les sanctions ne sont pas très dissuasives et que ces entreprises se permettent de ne pas forcément respecter les termes du contrat. En gros, pour que ce genre de contrat fonctionne entre l'État et des entreprises privées, il faut que les contrôles soient réguliers et les sanctions sévères. Sauf que...
L'administration pénitentiaire assurait mal en fait le contrôle de l'exécution des prestations. Donc il y a eu la Cour des comptes qui avait soulevé ça. Et donc évaluer en fait la performance de ces entreprises était extrêmement compliqué puisque l'administration n'assurait pas le contrôle des objectifs quantitatifs. Ça s'est amélioré. Il y a eu deux rapports de la Cour des comptes. Donc, ils ont créé au sein de la direction de l'administration pénitentiaire un bureau spécifique chargé de gérer à la fois ses relations avec le privé et en même temps de contrôler. Mais il n'y a pas d'analyse poussée publique. Et à nouveau, il n'y a aucun document transmis au Parlement pour qu'il exerce un contrôle là-dessus. Et chaque année, quand il y a les lois budgétaires, c'est un domaine qui échappe complètement au regard du Parlement, qui ne demande pas non plus. Hein. Enfin, c'est jamais soulevé au moment des débats.
Ah oui, donc en réalité, on a très peu de chiffres pour estimer l'efficacité des délégations de services.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut rester prudent ici dans l'analyse. En théorie, ce pourrait être une bonne affaire, car on confie une activité à une entreprise spécialiste en la matière, qui sait comment faire, c'est ce qu'on appelle l'effet d'apprentissage, et qui organise sa production de manière optimale entre plusieurs sites de production, ce sont les économies d'échelle. Mais en pratique, tout dépend de l'intelligence de l'État pour négocier correctement les contrats de délégation et pour surveiller la bonne application des contrats.
Ce qui est curieux, c'est qu'on a eu recours à la délégation, car on pensait l'État trop bureaucratique, ou mal organisé. Mais quand on regarde la situation des prisons, on se rend compte que si l'État continue de mal faire son boulot, en tant cette fois que donneur d'ordre, on aboutit quand même à la situation économique problématique qu'on voulait éviter au départ.
Que voulez-vous ?
Le laissez-passer à 38.
Vous avez le formulaire bleu ?
Le formulaire bleu ? Non.
Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38 ?
Et où trouverais-je le formulaire bleu ?
Guichet 1.
Mais j'en viens.
Exactement. Et c'est l'un des angles morts de la pensée néolibérale. Même si on délègue, on externalise certaines tâches de l'État, son rôle reste fondamental pour la bonne marche des affaires.
Jeter l'État par la porte en théorie, et il revient en pratique par la fenêtre.
Pour conclure sur ce point, on ne peut ni condamner ni applaudir définitivement ce dispositif. Il est possible que certaines délégations soient une vraie source d'économie pour l'État et d'autres non. Il faudrait voir au cas par cas. Mais ce n'est pas tout. Car à partir de 2004, les gouvernements passent à la vitesse supérieure dans l'extension du domaine marchand avec les PPP.
Les fameux partenariats publics-privés.
Cela même. On parle d'ailleurs de PPPP, de partenariats publics-privés pénitentiaires. Et ces PPPP ont été utilisés pour la première fois en France en 2004 pour construire des prisons. Grégory Salle nous en explique le principe.
Alors là où ça change par rapport à la gestion déléguée classique, c'est que s'il y a un système de loyer. En fait, évidemment, construire des prisons, ça coûte très cher. Donc pour éviter de s'endetter fortement à court terme, et dans un contexte dit de crise avec plein de guillemets, en fait d'assèchement des finances publiques, on a donc recouru à cette technique qui permet de différer dans le temps l'endettement en réalité. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe qu'une entreprise privée, alors l'entreprise qui est en tête sur le secteur maintenant, c'est Bouygues. Alors c'est intéressant parce que c'est une entreprise qui avait raté le coche dans les années 80 puis qui s'est rattrapée fortement au moment des PPP. Donc Bouygues en tête, mais il y a aussi Vinci, etc., Eiffage. L'État loue à ces entreprises privées qui sont propriétaires du bâti pendant un contrat qui est en général de 25 ou de 30 ans, loue la prison, paye donc un loyer et récupérera à la fin du contrat, donc une trentaine d'années, la prison.
Donc pour résumer, soit l'État construit lui-même des prisons, il s'endette et il doit ensuite payer les mensualités pour rembourser la somme empruntée, soit il confie le coût de construction de ses prisons à des entreprises sous la forme des PPP. Et il paye ensuite un loyer. Donc ça n'est rentable pour l'État que si le loyer payé à l'entreprise est inférieur aux mensualités qu'il aurait eu à payer s'il était endetté. Alors Étienne, dans cette comparaison entre loyer et mensualité de remboursement, ça donne quoi ?
Eh bien, là aussi, on n'a pas les chiffres complets, car les contrats restent secrets, encore une fois. Mais la Cour des comptes a révélé une information très inquiétante à ce propos.
L'estimation des coûts sur lesquels s'est engagé l'État à l'égard du secteur privé est d'au moins 5 milliards d'euros, hein, une fois qu'il faudra rembourser, une fois que tous les loyers auront été remboursés jusqu'à une échéance qui est autour de 2040, hein, 2036 ou 2040. Et ce qu'elle montre aussi, c'est que, entre autres, la part, disons, des dépenses immobilières de l'administration pénitentiaire pour ces PPP est tout à fait disproportionnée, puisqu'on serait à peu près à 15% des places dans ces PPP, qui sont peu nombreux mais qui sont des grosses prisons avec de nombreuses places, alors que ils absorberaient à peu près 40% des dépenses immobilières de l'administration de la justice, de l'administration pénitentiaire.
Ces PPP, c'est donc 15% des places de prison, mais 40% du budget immobilier. Clairement, il y a un problème. Ces PPP alourdissent les comptes de l'État au lieu de les alléger. Mais pourquoi on a fait ça alors ?
Deux raisons principales. Premièrement, ces prisons en PPP ont été construites très rapidement. Et c'est exactement ce que recherchent les gouvernements. Ils veulent montrer qu'ils sont réactifs. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes pressé et que vous menez une négociation, vous êtes celui qui allait faire le plus de concessions, car vous voulez rapidement que les travaux s'engagent. Et il est possible que les concessions aient été beaucoup trop favorables aux quatre entreprises qui ont gagné ces contrats, à savoir Bouygues, Spi-Batignolles, Eiffage et Vinci. Juste un autre chiffre de la Cour des comptes et qui fait froid dans le dos, les deux nouveaux tribunaux de grande instance de Paris et de Caen, construits en PPP, représentent 29% du budget total de l'immobilier du ministère de la Justice, alors que ce ministère doit gérer 732 sites. Donc ces deux sites sur 732 représentent un peu moins d'un tiers du budget.
Enfin, t'as vu la tête du TGI de Paris ? Bon, il est beau, mais on comprend la facture. Et la deuxième raison du recours au PPP ?
C'est une raison purement comptable. Il faut savoir que les loyers payés ne sont pas considérés comme de la dette. Donc ça donne l'impression que les pouvoirs publics ne sont pas endettés en ayant recours au PPP, alors qu'ils doivent payer des loyers très élevés.
Donc les PPP sont un échec complet.
Oui, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Cour des comptes qui l'a répété à trois reprises dans ses trois rapports publiés sur le sujet depuis 2014.
Donc cette politique de construction de nouvelles prisons coûte de plus en plus cher. Et pourtant, ça ne permet pas de supprimer la surpopulation carcérale. Comment ça se fait ?
Tout simplement car il y a de plus en plus de détenus en France. Ce nombre augmente aussi vite que le nombre de places créées.
On a donc une hausse de la criminalité ou de la délinquance en France ces dernières années ?
Eh bien, même pas. Aucun chiffre ne le montre. Les homicides ont par exemple été divisés par deux entre 2006 et 2018. Autre exemple, la délinquance. Prenons l'enquête la plus récente de victimisation, celle de 2017.
Alors, attends, juste pour expliquer. Une enquête de victimisation n'enregistre pas le nombre de plaintes, car tout le monde ne porte pas plainte. Il s'agit donc d'interroger directement un panel représentatif de Français et de Françaises sur les faits qu'ils ont subis. Qu'ils aient ensuite porté plainte ou non par la suite. Par exemple, comment ont évolué les vols de voitures d'après cette dernière enquête ?
Moins 58% depuis 2006.
Les vols de deux roues ?
Moins 42% depuis 2006.
Les cambriolages de résidence principale ?
Là, ça augmente. Plus 35% depuis 2006.
Et les vols avec violence physique ?
Moins 42% depuis 2006.
Les menaces et injures ?
C'est stable.
Les violences physiques hors ménage ?
Moins 13%.
Ouais, donc dans l'ensemble, c'est plutôt à la baisse. Même si ça dépend des catégories. Toujours est-il que ça n'explique pas du tout la hausse de la population carcérale. Mais alors d'où vient le problème ?
Écoutons Marie Crétineau. Elle nous livre la clé qui permet de comprendre la récurrente surpopulation carcérale en France.
Tout est un mécanisme simplement de politique pénale, avec aussi parallèlement une tendance des politiques, enfin législatives, à accroître le périmètre de la justice pénale. Un certain nombre d'infractions ont été créées. Par exemple, l'occupation devant un hall d'immeuble, la mendicité dite agressive. Tout ça, c'est des délits qui ont été créés ces dernières années et ça ne cesse de s'amplifier, notamment aussi la question des transports. Aujourd'hui, prévenir la présence d'un contrôleur dans les transports est passible de prison.
Pardon ?
Et l'augmentation du nombre de délits qui peuvent conduire à des peines d'emprisonnement ferme ne s'arrête pas là et continue en 2019. Avec la fameuse et très contestée loi dite anti-casseurs. Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale le 5 février 2019, dissimuler tout son visage ou une partie de son visage sans motif légitime aux abords d'une manifestation est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an. Sans oublier l'article 2 qui prévoit une peine de 6 mois de prison pour toute personne interpellée pendant une manifestation alors qu'elle était interdite de manifestation.
D'ailleurs, la ligne rouge a été franchie puisqu'à Nanterre, des étudiants ont attaqué des policiers en leur mettant des coups de mâchoire dans leur matraque. Tolérable, fois deux.
Tout ça pour dire que la prison est devenue ces dernières décennies la principale réponse pénale de la justice française. Et c'est cette inflation de lois répressives qui alimente les prisons de nouveaux détenus. Prenons juste un exemple, les délits routiers. Depuis la loi Perben de 2004, conduire sans permis est désormais passible d'un an de prison ferme. Ajoutez à cela le recours de plus en plus systématique aux comparutions immédiates à partir de 2007, qui accélère les décisions de justice, tout en réduisant les possibilités de se défendre, alors vous obtenez le chiffre suivant. En 2011, on compte 8000 individus qui ont été condamnés à de la prison ferme pour conduite sans permis.
On peut tout de même reconnaître que les accidents mortels de la route ont fortement diminué en 15 ans.
C'est vrai, mais cette diminution a commencé dans les années 80, bien avant la loi Perben. Et est-ce vraiment la meilleure réponse pour espérer une meilleure conduite de la part de ces individus ? Ce n'est pas sûr, car ces peines courtes d'emprisonnement ont des effets dévastateurs sur la vie des individus. C'est ce que nous rappelle Marie Crétineau.
Et l'autre aspect, c'est que en prison, on aggrave la situation des personnes. Si elles avaient un logement, généralement, elles l'ont perdu. Un travail, elles l'ont perdu. Beaucoup ont des problèmes de qualification. C'est des parcours de vie complètement cabossés, donc ils cumulent les problématiques. Ils ont un rapport compliqué aux institutions, ils peuvent avoir un rapport compliqué aussi à l'éducation nationale.
C'est toute l'absurdité du système français. on multiplie les délits qui entraînent les peines courtes dans les maisons d'arrêt. Sauf que ce sont justement les établissements qui proposent le moins d'accompagnement, que ce soit psychologique, social ou professionnel. Quelques mois en prison suffisent largement à fragiliser des situations précaires, mais on ne propose aucun outil à ces personnes-là pour remédier aux causes de leurs problèmes.
Si on te suit bien, Étienne, en toute logique, ça veut dire que ces personnes, passées en prison, fragilisées, sont susceptibles de commettre des nouveaux méfaits, comme voler, conduire sans permis, etc. On aborde ici la question de la récidive.
Oui, et les chiffres de récidive sont très mauvais en France. D'après une étude de 2011 de Kensey et Benahouda, le taux de récidive, toutes peines confondues, pour les sortants de prison, est de 59% en France dans les 5 ans qui suivent la sortie de prison.
Et par ailleurs, il y a aussi quand même une tendance où on n'arrête pas de dénoncer en fait, les courtes peines d'emprisonnement, en mettant en avant, et à très juste titre, que c'est des peines très désocialisantes, où finalement, on a juste le temps de casser la situation de la personne, socialement, économiquement, personnellement, et on n'a pas le temps de reconstruire quoi que ce soit. Une personne qui est incarcérée, par exemple, pour 6 mois, ne va voir peut-être qu'une fois un conseiller d'insertion et de probation. Il n'y a pas de projet qui est mis en place, et c'est des sorties sèches, c'est des personnes qui sortent sans accompagnement. Donc tout ça est générateur de récidive et crée aussi en fait des phénomènes de va-et-vient. En fait, on retrouve à nouveau les personnes devant la justice.
Résumons un peu la situation. La France a fait le choix, depuis les années 1980, de recourir très majoritairement à l'outil de la prison comme réponse à la criminalité et à la délinquance, tout en élargissant les situations qui sont passibles de peines d'emprisonnement ferme. La France construit donc régulièrement de nouvelles prisons, tout en essayant de réduire la facture en ayant recours au secteur privé, avec délégation de services dans un premier temps et partenariat public-privé dans un deuxième temps. Choix sans doute peu judicieux dans le premier cas et très sûrement catastrophique dans le second. Conséquence immédiate, la facture de l'incarcération est de plus en plus lourde dans le budget de la justice. Ce qui laisse beaucoup moins d'argent pour les autres domaines du ministère de la Justice, d'où des effectifs en nombre trop faible pour traiter les dossiers de plus en plus nombreux, car le nombre de délits inscrits dans la loi augmente. Comme la justice est confrontée à des moyens insuffisants, les délais s'allongent, ce qui augmente le nombre de détentions provisoires dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire tous ceux qui sont en attente de jugement. On décide alors d'accélérer le processus avec des comparutions immédiates. Mais cette méthode accroît le nombre d'incarcérations rapides sans véritablement garantir une justice pour les accusés. Donc, encore plus de gens en prison. Autre conséquence du tout prison en France, il y a moins d'argent pour les autres sanctions possibles. C'est ce qu'on appelle les mesures de probation, comme les bracelets électroniques, les travaux d'intérêt général, les sursis avec mise à l'épreuve, des stages de citoyenneté ou encore l'hébergement dans des structures associatives. Et surtout, moins d'argent dans l'accompagnement de toutes ces personnes condamnées. Ces dispositifs ont parfois été développés, notamment avec la loi Taubira de 2014, car cet accompagnement semble indispensable pour éviter de nouvelles condamnations à l'avenir, comme nous l'explique Marie Crétineau.
La prison aggrave finalement l'essentiel des facteurs de commission d'infraction pour quelqu'un et ne règle pas les questions, les problématiques qui sont posées. Le meilleur moyen en fait de favoriser une sortie de délinquance, c'est de résoudre en fait les difficultés auxquelles est confrontée la personne. Ça peut être des difficultés d'ordre social, économique, ça peut être des problèmes liés à des conduites addictives ou des problèmes, par exemple, une question de rapport à la violence. Ça peut se travailler en milieu ouvert avec une intervention spécifique sur cette question-là, de manière rapprochée, mais la prison est un milieu violent. Donc on va mettre des personnes qui ont un problème avec la violence dans un milieu violent, en général, ça ne règle pas la situation. Par ailleurs, dans tous les pays, mais en France particulièrement, il y a la question du respect de la dignité des personnes en détention et des conditions de détention et des droits. Et notamment là, en termes de conditions de détention, il y a des condamnations régulières sur le fait que le traitement qui est fait aux personnes est constitutif, enfin est dégradant, particulièrement dégradant. Donc on ne respecte pas les droits fondamentaux, on incarcère des personnes parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, ni les droits des autres, et eux, ils sont soumis à une expérience où leur droit va être bafoué de manière régulière. En termes de rapport aux institutions et de sens que ça a, ça questionne beaucoup.
Continuons le raisonnement. Faute d'un accompagnement soutenu, le taux de récidive est donc élevé, ce qui oblige la France à construire de nouvelles prisons. Donc l'argent continue d'être fléché vers les établissements pénitentiaires et non vers les services de justice ou d'accompagnement. Donc les délais s'allongent car les juges sont débordés, donc les détentions provisoires sont encore plus nombreuses, les maisons d'arrêt sont surchargées, donc il faut construire de nouvelles prisons, etc., etc., etc. La passion française pour la prison est une fuite en avant, un cycle infernal qui se nourrit lui-même depuis presque 40 ans sans en voir le bout. Dans les faits, la politique répressive par la prison ne résout ni la surpopulation carcérale, ni le cycle de délinquance des personnes moulinées par ce système.
Et on connaît un peu le profil de ces personnes régulièrement incarcérées dans les maisons d'arrêt ?
Un sociologue, Didier Fassin, a mené une enquête ethnographique dans l'une d'entre elles entre 2009 et 2013, en suivant le parcours pas à pas de ces individus condamnés à des courtes peines. Le tout est raconté dans son ouvrage « L'ombre du monde », publié en 2015. Et le profil est très net. Ce sont avant tout des jeunes hommes, précaires et issus des minorités racisées. Et il essaye de comprendre pourquoi, sans se voiler la face. Tout d'abord, en début de chaîne, ce sont ces individus-là qui sont davantage contrôlés. C'est confirmé par une enquête de 2017 du Défenseur des droits, où les jeunes hommes qui sont perçus comme arabes, maghrébins ou noirs ont une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlés que les autres. Ensuite, face aux juges, les personnes qui se présentent moins bien, qui parlent moins bien, qui sont moins bien défendues, sont davantage condamnées à des peines de prison ferme, selon les observations de Didier Fassin. Donc d'après son enquête, il semble que la justice française, dans son ensemble, soit stigmatisante et discriminante.
Ouais, rassure-nous Étienne, il n'y a pas que ça quand même.
Alors oui, deux nouvelles en 2018 qui semblent montrer un fléchissement du tout présent. Tout d'abord, le gouvernement a annoncé une mise à l'écart de l'option des PPP pour les nouvelles prisons. On attend encore la confirmation de ce tournant. Et deuxième nouvelle intéressante, la ministre de la Justice voudrait éviter les peines de prison inférieures à 6 mois et privilégier les mesures probatoires pour les personnes concernées. Pour conclure, j'aimerais insister sur deux points. Tout d'abord, je suis frappé du manque de chiffres et de statistiques sur l'économie des prisons. On ne connaît pas les contrats signés avec les entreprises. Il y a très peu d'évaluation des différentes mesures prises. Comment voulez-vous mener des politiques publiques pertinentes sans avoir la moindre évaluation correcte et précise de tout ce qui a été fait auparavant ? Ensuite, derrière la question technique et économique de la construction des prisons, se cache en fait une question éminemment politique. C'est ce que montrent à peu près tous les épisodes de Splash, sur le nucléaire, sur la vidéosurveillance, sur le cannabis, sur les autoroutes, sur le handicap, sur l'immigration. Et si on suivait la logique purement économique, les politiques publiques seraient sans doute bien différentes en la matière. Juste quelques derniers éléments pour terminer cet épisode. Selon les chiffres dont on dispose et relayés par Marie Cretneau, en moyenne, le coût de l'emprisonnement en France, c'est 104 euros par jour et par détenu. Le coût du placement sous surveillance électronique avec accompagnement, c'est environ 20 euros par jour par personne. Le coût d'un hébergement dans une structure associative, environ 30 euros par personne et par jour. Il ne faut pas se priver de réfléchir à une politique pénale globale dans laquelle la prison n'est pas la seule réponse. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres, et sans doute pas le meilleur dans un certain nombre de cas, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, et aussi et surtout pour des raisons de sécurité. Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabaille, co-animée avec Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast, et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite.